Pour commencer, nous nous tournons vers l'éveil. Nous entrons en présence de l'éveil. Et nous posons comme motivation pour notre moment d'étude et de pratique une aspiration à l'éveil pour le bien de tous les vivants. C'est ce que l'on nomme le refuge et la motivation d'éveil, bodhicitta. Om Ahom. Justement, notre propos aujourd'hui, notre thème du jour, est le refuge et les trois joyaux. Un exergue du Sutra de la Grande Libération, le Tarpachenpudo, dit « En essence, le refuge est unique, mais ses moyens sont triples. » Donc, ce que l'on nomme refuge est unique, mais ce refuge, dans ses dimensions et ses moyens, ses méthodes, ces expressions est triple. Ce sont les trois joyaux. La notion de refuge nécessite d'être expliquée. Qu'est-ce que le refuge? Qu'entend-on par refuge? Pourquoi un refuge? Le refuge est ce vers quoi l'on va, ce à quoi l'on aspire, au sens où c'est le lieu où il n'y a ni peur, ni rien à craindre, un lieu de protection, de bien-être, de bonheur, de libération, au-delà du mal-être et des souffrances. C'est ainsi que l'on entend par refuge l'éveil. Qu'est-ce que le refuge? C'est l'état d'éveil. Et en essence, le refuge est unique. En essence, il n'est qu'un refuge, l'état d'éveil, qui est un état spirituel, un état de non-dualité absolue. Donc, en essence, le refuge est unique, il est l'absolue non-dualité de l'état d'éveil. Cet état, au-delà des illusions, des passions, des souffrances, c'est vers cette réalisation, vers cet état que l'on se tourne ou en présence duquel l'on entre, on se place en cet état ou dans, vers cet état en préliminaire, en début de toute pratique ou de toute étude. Ces moyens sont triples, ces expressions, les expressions du refus sont triples, nous allons le voir, ce sont ce que l'on nomme les trois joyaux. Ils sont les trois dimensions, les trois étapes du refuge ou de l'entrée en éveil. Mais le chapitre commence par la confiance. La confiance permet de s'engager dans la voie et de progresser sur celle-ci avec effort. Alors, la confiance est aussi quelque chose de délicat et de difficile. Mais il est clair que sans confiance, on ne fait rien. Le dharma, la voie de l'éveil, n'est pas une religion au sens théiste et il ne s'agit pas de croire à quoi que ce soit pris comme un dogme ou une doctrine. Néanmoins, la confiance est fondamentale. La confiance étant ce qui nous permet d'entrer dans une démarche, ce qui nous permet de nous ouvrir, de nous confier et d'entrer dans la dynamique du cheminement. Remarquez que même dans une démarche de type scientifique, expérimental, il y a une confiance pour mettre au test de l'expérience une hypothèse. Il est nécessaire d'avoir confiance en la possibilité de sa validité. Donc, ici, la confiance est beaucoup plus assimilable à cette confiance d'une démarche expérimentale qu'à la croyance. La première forme de confiance, car nous allons voir qu'il en est trois, est la plus, d'une certaine façon, délicate. Et, elle est ce que l'on nomme la confiance de la sincérité, ou on dit aussi de l'émerveillement, ou on pourrait peut-être aussi la dire la confiance de l'harmonie. C'est une confiance très simple qui n'est pas raisonnée, qui n'est pas intellectuelle, mais qui vient lorsque l'on perçoit quelque chose qui nous semble bon, qui nous semble sain, qui nous parle, qui résonne en nous, que l'on perçoit comme étant bon, un état de bonté, une bonne présence qui nous inspire ou qui suscite en nous une curiosité, un émerveillement, un intérêt. La confiance est un état d'esprit qui naît initialement d'une compréhension des qualités des trois joyaux. Non. Les trois joyaux ont beaucoup de niveaux de compréhension. Les trois joyaux sont Bouddha, Dharma, Sangha, nous allons les discuter. Mais d'abord et d'une façon simple, il s'agit de l'éveil. Le refuge en essence est un. Donc la confiance vient d'une certaine compréhension de l'éveil, de la possibilité d'éveil, de la possibilité de santé, de la possibilité d'un mieux, d'une guérison, d'un processus, on pourrait même dire thérapeutique, de cheminement vers un mieux, vers le bien, vers le bon, le bonheur, le bien-être. Lorsque nous entendons parler de l'éveil, le Bouddha, alors Bouddha et éveil sont à comprendre comme synonymes. Lorsque nous commençons à comprendre les qualités du Dharma, la pratique, l'enseignement de réalité, et percevant l'assistance que peut nous apporter le Sangha, la communauté de ceux qui transmettent et pratiquent le Dharma, la confiance et l'aspiration naissent en nous. Cela peut se passer à bien des niveaux, mais il y a cet éveil d'un élan du cœur ou d'une motivation qui commence à poindre en nous. Il y a principalement trois formes de confiance. La confiance de l'admiration ou de l'émerveillement, qui est la première, qui accompagne la découverte des qualités du Bouddha, découverte de l'éveil ou de sa possibilité, et des trois joyaux. Puis vient la confiance dite de l'aspiration. Elle est fondée sur la première forme de confiance, mais c'est l'aspiration à cheminer vers l'éveil. Lorsque l'on perçoit vraiment la possibilité d'un éveil, d'une réalisation, vient une aspiration, un élan qui est cette deuxième forme de confiance. Puis, finalement, vient la confiance de la certitude, qui est lorsque nous acquérons par la pratique l'expérience authentique de la vérité des enseignements. La confiance de la certitude n'est pas une confiance mentale, ça n'est pas une croyance, mais c'est une expérience. Lorsque l'on a vérifié, lorsque l'on a expérimenté la validité de l'enseignement, de sa pratique, alors il y a une confiance, c'est une certitude. On est certain, cela fait partie de nous, c'est cette confiance de la certitude. Ainsi, le cheminement commence sur la base d'une certaine confiance en l'éveil, les trois joyaux, en la possibilité d'éveil et de réalisation des qualités de celui-ci. Ou tout simplement en la possibilité d'un progrès spirituel, d'un mieux, d'une évolution, d'un cheminement spirituel, éthique et spirituel. Ceci nous émerveille et nous inspire. Nous émerveille, c'est la perception d'une harmonie, de quelque chose d'harmonieux, une résonance au propre, une sorte de résonance harmonique qui nous fait sentir une santé qui nous attire. Nous souhaitons aller alors plus avant, en savoir davantage. Et bien que nous ne sachions pas encore si l'enseignement que nous entendons est juste ou non, nous entrevoyons ses qualités et commençons à apprécier sa valeur. Nous avons cette confiance de l'admiration, encore nommée de l'émerveillement ou de l'inspiration, qui est la première forme de confiance. Elle nous incite à tenter un premier pas. Le cheminement dans le dharma se fait pas à pas, on fait un premier pas, et si ce premier pas se révèle fructueux, bon, on en fait un deuxième, et par exemple un troisième, et pas à pas, ainsi d'avancer. Donc, l'on fait un premier pas, en trouvant ainsi la porte du dharma, nous apercevons la véracité de certains de ses aspects, et gagnons de l'assurance. S'approfondissent alors en nous une aspiration à l'éveil et un élan vers l'enseignement, le Bouddha et le Dharma. C'est la deuxième forme de confiance, la confiance de l'aspiration, qui est à ce moment-là un élan beaucoup plus, une aspiration avec tout ce que cela peut avoir de fort et comme un élan de toute notre personne. Dans celle-ci, nous prenons l'éveil, l'état de Bouddha, comme but et le dharma comme moyen pour cheminer vers celui-ci. L'éveil, la réalisation étant une sorte de destination et le dharma, l'enseignement de réalité, comme le moyen et la méthode pour atteindre cette réalisation. Ensuite, la pratique profonde, enrichissant progressivement notre compréhension, au lieu de simplement penser que l'état de Bouddha et l'enseignement sont merveilleux et utiles et d'aspirer à leur pratique, nous goûtons directement et véritablement leurs bienfaits et savons alors directement qu'ils sont authentiques et justes. Il y a vérification directe de leur véracité. C'est la troisième forme de confiance, la confiance de la certitude. C'est donc l'expérience directe, le goût, la saveur des qualités de la pratique, de l'enseignement. Et à ce moment-là, il y a une certitude d'une expérience. Les trois joyaux. Donc, les trois joyaux Bouddha, Dharma, Sangha. Bouddha, l'éveil, l'éveillé. Dharma, sa parole, son enseignement, l'enseignement de réalité. Sangha, la communauté, l'ensemble des personnes qui transmettent le Dharma et cheminent sur sa voie comme pratiquants. Bouddha, la nature pure de l'esprit, ouverture, clarté, bonté. Vous vous souvenez, nous avons vu cette présentation de la nature de l'esprit, ouvert, sans centre ni périphérie, clair, une clarté, luminosité, lucidité, autoconnaissante, et bonté, bonté de grande compassion, énergie de toutes les qualités éveillées. Cette nature de Bouddha, ouverture, clarté, bonté, est en nous depuis toujours, est ici depuis l'origine, mais masquée par des voiles recouvrant les qualités qui lui sont propres. Nous avons vu cela précédemment avec les deux ou les quatre voiles. Un Bouddha ou un grand Bodhisattva ont purifié, dévoilé leur esprit et ont épanoui en lui toutes les qualités inhérentes à la nature de Bouddha. Bouddha, l'état de Bouddha est dévoilement et épanouissement. Ce sont les deux sens ou les deux dimensions de Sangye, qui est le terme tibétain pour Bouddha, épanouissement, développement. Il y a vide de voile et plénitude de qualité. Sangye. Tout comme lorsqu'il n'y a plus ni nuages ni brouillard, l'espace est ouvert, lumineux, baigné par le soleil. Alors, cette image naturelle de l'ouverture de l'espace, ouverture, baigné de clarté, avec la chaleur et la lumière, comme l'intelligence et la compassion, qui révèle toutes les qualités éveillées. C'est une image que nous avons déjà utilisée. Le rare et sublime Bouddha, alors c'est ainsi qu'on exprime Kunsho, le terme tibétain, rare et sublime, presque, on dit aussi précieux, les trois précieux, les trois joyaux, les trois trésors. Le rare et sublime Bouddha est la réalisation ultime de l'esprit, tout pur et tout épanoui. Sangye, comme nous venons de dire. C'est aussi l'exemple concret de l'éveil, celui que nous a donné le Bouddha Sakyamuni et tous ceux qui, à sa suite, sont arrivés à l'éveil. Donc, Bouddha est ainsi l'état de Bouddha et aussi l'éveillé, les éveillés, ceux qui ont réalisé cet état de Bouddha. Dharma. Dans sa réalisation, un Bouddha est libre de tout conditionnement douloureux. Il est libre de la dualité, il est libre des passions duelles, dualistes. Il est libre de tous ses conditionnements et il est doté de toutes les qualités éveillées. Il est apte à mettre en œuvre tout ce qui est bon et utile pour le bien des vivants. Son activité éveillée s'exprime spontanément de bien des façons, principalement par sa parole. Sa parole, son énergie d'expression, son enseignement qui se nomme le dharma du Bouddha, la parole du Bouddha, qui est l'enseignement de réalité, au sens où le Bouddha, l'éveillé, dit ce qui est, sa parole, son souffle, exprime la réalité, il en est le porte-parole, il en est le prophète, d'une certaine façon, et ainsi il exprime pour le bien de tous les vivants ce qui est, et par là même leur donne la possibilité de réaliser cette réalité. La parole des Bouddhas est pourvue de qualités que l'esprit ordinaire ne peut comprendre. Elle fait descendre sur tous les vivants une pluie d'enseignements des différents véhicules, les énonçant en une seule fois en la langue particulière à chacun et en conformité avec l'intelligence, les facultés, les aspirations, les possibilités et les limites qui lui sont spécifiques, qui sont spécifiques à chacun. Cette parole harmonieuse est bonne au début, au milieu, à la fin. La parole des Bouddhas, l'expression des Bouddhas peut être bien entendue par chacun. En un seul énoncé, il peut être compris et satisfaire les besoins de différentes personnes. L'expression d'un Bouddha a cette faculté de pouvoir, en un énoncé, en une expression, satisfaire ou répondre aux questions, aux besoins de différentes mentalités ou de différents types de personnes. La parole du Bouddha est bonne en toutes circonstances. Elle dit ce qui est bon, elle dit ce qui est vrai, elle dit la réalité, et même d'une certaine façon, tout ce qui dit le bien et tout ce qui dit la réalité, cette expression de la vérité est parole d'éveillé. Profonde et vaste comme l'océan, elle œuvre perpétuellement pour le bien des vivants en ce monde et dans bien d'autres univers, cela tant qu'il y a des vivants dans le samsara. Cette parole du Bouddha est le rare et sublime dharma. Il a deux aspects, le dharma des écritures qui nous indique la voie vers l'éveil et le dharma de la réalisation qui est l'expérience pratique et véritable du sens de ce dharma écrit. Donc, on distingue deux types de dharma, le dharma des écritures et le dharma de la réalisation. Alors, les écritures sont les paroles du Bouddha qui sont consignées par écrit. Et il y a tout un corpus, un canon des écrits bouddhistes ainsi. Et il y a le dharma de la réalisation. La réalisation, c'est l'expérience, c'est l'esprit, c'est le vécu. Il y a d'une certaine façon la lettre et l'esprit. Il y a les écrits et l'expérience, et les écrits donnent des indications pour l'expérience, et l'expérience est le but, c'est aussi l'esprit qui anime la lettre, et qui est tout l'essentiel. Donc, ainsi le dharma. Puis, sangha. Sangha, donc le sangha en sanskrit, la communauté des pratiquants. Ceux qui étudient, pratiquent et transmettent les mots et l'expérience du dharma, donc les deux dimensions du dharma, constituent le sangha, la communauté des pratiquants du dharma du Bouddha. On distingue selon le degré de réalisation qu'ils en ont, qu'ils ont du dharma, le sangha supérieur et le sangha des êtres ordinaires. Le premier, le sangha supérieur, est constitué par les êtres réalisés déjà affranchis du samsara. Donc, les personnes réalisées qui se sont libérées des illusions de la conscience duelle constituent le noble sangha. Le sangha éveillé qui est celui à partir de ce que l'on nomme la première terre de Bodhisattva, les Bodhisattvas réalisés. Le second, le sangha des personnes ordinaires, comprend tous ceux qui ont pris des engagements, qui se sont donc engagés dans la voie d'éveil, chacun selon sa convenance, que ce soit au niveau du Hinayana, que ce soit comme Bodhisattva ou que ce soit dans le Vajrayana. Ces deux classes du Sangha forment ensemble le rare et sublime Sangha, le précieux Sangha. Maintenant, entrer en refuge. Entrer en refuge et, comme nous le disions tout à l'heure, entrer en la présence de l'éveil, entrer en la présence des trois joyaux, se tourner vers l'éveil, la claire lumière non dualiste, se tourner vers l'absolu, ouvert, clair, bon, se placer dans cette présence, cette inspiration, cette protection qui est exprimée en trois dimensions, Bouddha, Dharma, Sangha, qui constituent ensemble les trois joyaux. Entrer en refuge en le Bouddha, le Dharma et ceux qui le pratiquent et le transmettent, le Sangha, et l'engagement spirituel initial, lequel s'effectue sur la base de la confiance qui nous tourne vers les trois joyaux et nous engage à commencer à cheminer sur leurs traces. Donc, les différentes formes de confiance, et ici particulièrement au début, la première. Il y a dans l'entrée en refuge différents niveaux ou différents aspects. De la façon la plus large, l'entrée en refuge peut résumer toute la voie. C'est l'entrée dans la réalisation, c'est l'entrée dans l'éveil. Mais au début, le seul fait de commencer à pratiquer la pleine présence, est une façon d'entrer dans une certaine présence de l'éveil. Et c'est une façon informelle et qui peut être même inconsciente d'entrer en refuge. Il y a aussi entrer en refuge d'une façon formelle dans une pratique rituelle, une certaine cérémonie d'entrée en refuge qui explique et qui exprime avec une dynamique du corps, de la parole et de l'esprit cette orientation d'éveil que l'on donne à sa vie. Et puis il y a encore entrer en refuge dans la pratique, chaque fois que l'on entre en présence de l'éveil, que l'on se dirige vers celui-ci dans la pratique, c'est entrer en refuge de façon pratique. Et il est aussi encore entrer en refuge au niveau ultime, c'est-à-dire véritablement entrer en l'éveil dans la réalisation par la réalisation. Donc, c'est dire qu'il y a beaucoup de dimensions et de compréhension à cette notion d'entrée en refuge. Mais l'entrée en refuge établit une connexion spirituelle qui, d'une part, nous protège des craintes, des peurs, de toutes les souffrances du cycle des existences conditionnées et des obstacles en cette vie, au moment de la mort et jusqu'à l'éveil. Dans l'entrée en refuge, il y a cette connexion spirituelle. On établit une connexion, on établit un lien qui va nous, à la fois nous protéger, nous guider, nous diriger, nous inspirer. Maintenant, au moment de la mort, jusqu'à l'éveil et en toutes circonstances. Et d'autre part, l'entrée en refuge nous conduit, nous dirige vers l'éveil, nous montrant la voie et nous guidant sur celle-ci. Ainsi, entrer en refuge jusqu'à l'éveil en y associant tous les vivants est l'entrée dans la voie du Bouddha. Et l'entrée dans la voie de l'éveil, c'est le fondement du dharma et de sa pratique. Nous entrons en le refuge du Bouddha, rendant hommage à son exemple, la personne qui, par son ardeur, son courage, sa détermination, son intelligence, sa compassion, sa bonté, s'est éveillée. Rendant hommage à son exemple, aspirant à la réalisation de son état et lui demandant de nous inspirer, de nous protéger, de nous guider avec tous les vivants qui sont prisonniers du cycle des illusions. Nous entrons dans le refuge du Dharma, comprenant sa valeur et nous engageant avec confiance dans son étude et sa pratique. Nous entrons en le refuge du Sangha, en écoutant avec confiance et respect les enseignements qu'il transmet et pratiquant suivant l'exemple de ses maîtres, suivant l'exemple de ses membres et de tous les anciens qui en ont été des exemples. Entrer en refuge est établir fondamentalement une connexion spirituelle positive avec les trois joyaux. Cette orientation, établir un contact, une relation, une connexion. Cela nous engage dans le dharma, cela nous connecte au dharma et à sa pratique, mais n'implique pas le rejet ou le reniement de la confiance que nous pourrions avoir en d'autres traditions. Entrer en refuge ne demande pas de rejeter, de renier quoi que ce soit. C'est une connexion positive que l'on établit avec l'éveil et cela est tout à fait suffisant et c'est tout l'essentiel. Nous ne sommes pas dans un contexte théiste où il s'agirait d'adhérer à une croyance en rejetant une autre. Entrer en refuge est la base du cheminement sur la voie de la libération. Ce refuge protège de ce qui pourrait en détourner, ainsi que des intentions et actes qui contreviendraient. Lorsque nous entrons véritablement en refuge, aucun obstacle ne nous fait plus trébucher, nous ne renaissons plus dans le monde des trois existences inférieures, et finalement, sur cette base du refuge, la transmigration dans le cycle des existences viendra à son terme. Donc, la connexion du refuge libère des obstacles, évite de trébucher et de chuter dans les états des distances inférieures, et c'est cette connexion qui, finalement, nous amène à la libération. Le chapitre se conclut par une histoire célèbre qui est un enseignement sur la confiance, le pouvoir de la confiance et aussi sur la qualité des reliques. Cette histoire se nomme La relique dent de chien. Une vieille tibétaine pratiquante du dharma avait un fils, commerçant, qui, pour son négoce, se rendait fréquemment en Inde. Sa mère un jour lui dit « L'Inde est le pays du Bouddha Sakyamuni. S'il te plaît, rapporte-moi quelques reliques de lui qui puissent servir de support à ma dévotion. » Le fils partit, mais accaparé par les soucis de ses affaires, il oublia la requête de sa mère et revint les mains vides, manquant ainsi plusieurs fois à sa parole. La vieille mère désespérait d'avoir sa relique avant de mourir. Elle lui dit un jour, « Si tu oublies encore lors de ton prochain voyage, à ton retour, je me tuerai devant toi. Mais le fils affairé oublia de nouveau. Et de retour, s'approchant de la maison familiale, il se souvint des paroles de sa mère. Craignant qu'elle ne mît à exécution ses menaces, il se demanda que faire. Sur le bord de la route, il vit un crâne de chien et en arracha une dent qu'il enveloppa soigneusement dans du tissu précieux. De retour à la maison, il dit « Regarde, maman, ce que je t'ai apporté, une dent du Seigneur Sakyamuni lui-même. » Sa mère le crut et, ravie, plaça la dent sur son autel et effectua prière et offrande avec une très grande ferveur. Il est dit que la dent fit apparaître des perles miraculeuses et que, lorsque la vieille femme mourut, des signes extraordinaires se manifestèrent. Une dent de chien n'a pas en elle-même d'influence spirituelle particulière, mais la force de la confiance de cette vieille dame, qui la considéra comme la dent du Bouddha, lui fit rencontrer l'influence spirituelle des trois joyaux. L'influence spirituelle des trois joyaux est omniprésente, c'est la confiance qui nous y ouvre. Je vous invite à un moment de contemplation en nous ouvrant ainsi avec confiance à cette influence spirituelle omniprésente. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue.